Richard Sandoin.
Oh oui, le midi, on jase d'actualité. On analyse la politique pour vous. Puis avec les séries du hockey, on parle d'hockey. Wouhou! On va en parler avec Alex Laramé vers la fin de l'émission parce que gros match ce soir, deuxième match de la série Canadien Lightning. On vient d'apprendre que Victor Hedman ne sera pas de retour de la série pour le Lightning de Tampa Bay. C'est le meilleur défenseur du Lightning, absent depuis un bout, autant pour des blessures que pour des raisons personnelles. Alors, c'est à suivre cette série. On va jaser d'actualité locale. Mathias Turcotte a couru deux conférences de presse pour nous ce matin. Une sur projet de terrasse sur Grande Allée avec les travaux de tramway. Les restaurateurs avaient fait des demandes, notamment l'atelier pour une terrasse à l'arrière de leur bâtiment. Puis ça tombe bien parce qu'on va avoir Alexandre Grenier, aussi copropriétaire du groupe Maestro, qui inclut l'atelier, qui va être avec nous en studio. Ça, c'est dans la première heure du show, avec Mathias aussi qui va venir nous raconter les travaux du tramway. Une voie seulement de circulation à compter de demain sur le boulevard Laurier. Prenez des chemins alternatifs. Soyez patients, écoutez Boulevard 102.1. Je vous le rappelle, pour interagir avec nous, 418-971-1021. Lorsque vous retournerez au travail après votre petite heure de lunch, vous pouvez nous écouter via le blvd.fm, c'est la web radio. Le BLVD 102.1, c'est notre application. Si vous êtes à la maison en télétravail, dites à votre haut-parleur intelligent, écoutez BLVD 102.1, on apparaît dans vos oreilles. Et téléchargez dans les dons, vous abonner à notre page YouTube. Ça va vous permettre justement d'avoir du contenu exclusif de Boulevard, dont le podcast d'hier de Denis Gravel sur les grands événements avec Cédric Bélanger. On a parlé du Festival d'été de Québec. À la météo, fini la pluie pour deux jours. 5 degrés généralement ensoleillés pour aujourd'hui. 11 degrés dégagement pour mercredi. 6 degrés, je ne sais pas si ma voix va tenir jusque-là, hein, Pascal? 6 degrés, possibilité d'averse pour jeudi et 9 degrés alternance de soleil et nuages pour vendredi. Pascal, dans l'actualité, remaniement ministériel aujourd'hui.
C'est la grande journée, effectivement. Ben, en fait, c'est un grand après-midi parce que la nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette, va effectivement présenter son conseil des ministres. On s'attendait pas à énormément de nouveautés quand on l'a entendu parler en entrevue, mais là, ce qu'on aurait su du côté du Journal de Québec, c'est qu'il n'y en aura pas effectivement de nouveautés, ou presque. Sonia Bélanger va rester à la santé, Sonia Lebel à l'éducation, Éric Girard resterait aux finances, Simon-Jolin Barrette à la justice, France-Hélène Duranceau au conseil du Trésor, et se verrait confier aussi des responsabilités supplémentaires. Elles seront à connaître cet après-midi. Lionel Carman, lui, qui a fait brasser bien de la soupe dans les derniers mois, il va retrouver son poste au ministre responsable des services sociaux, si on en comprend les informations du journal. Bernard Drinville serait nommé super ministre de l'Économie et de l'Énergie. Du côté de Radio-Canada, on nous apprenait que Caroline Proulx, Geneviève Guilbeault auraient été approchées par l'entourage de Christine Fréchette pour qu'elle reconsidère leur décision. Donc, tu sais, c'était leur décision de ne pas se représenter.
Oui.
Mais elles ont refusé, donc elles seront plus ministres. Gilles Bélanger avait été le premier à appuyer Mme Fréchette dans la course à la chefferie. Il est aussi écarté. Jean-François Roberge gardera ses responsabilités, mais l'immigration ira à quelqu'un d'autre. Jonathan Julien, lui, sans surprise, sera pas de retour au transport. Il y a plein de noms aussi. Il y a M. Bonnardel, François Bonnardel, qui revient au conseil. Bon, les rumeurs, c'est immigration. Samuel Poulain, affaires municipales. Benoît Charrette au transport, Jean-François Simard resterait ministre de la capitale nationale. Et nouveauté là-dedans aussi, ben, on aurait probablement un ministre des régions, donc député de Chapleau en Outaouais, Mathieu Lévesque, qui occupera ce poste-là, si on en comprend bien nos informations. Dans les sondages, le Parti québécois est revenu en tête des intentions de vote au Québec grâce à une chute de 5 points du Parti libéral du Québec qui passe de 33 % à 28 %. C'est un sondage léger québécois. On explorera tout ça un peu plus tard. Et mise en place d'un comité sur les relations économiques Canada-États-Unis par Mark Carney en vue des renégociations de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Le premier ministre compte s'appuyer sur les conseils, les points de vue de 14 personnalités politiques et d'affaires. On veut établir une ligne de conduite à adopter face aux États-Unis et ce, d'ici le 1er juillet prochain. Dans la cour des grands noms, Jean Charest, Valérie Beaudoin, Erin O'Toole, Magali Picard sont parmi les membres du comité. Première rencontre prévue le 27 avril.
Oui, et tu t'es entretenu avec Valérie Beaudoin, justement, chroniqueuse renommée au niveau de la politique américaine.
Et chercheur à la chaire Raoul d'Endurance.
Exactement. Ouais. Donc, on va présenter des extraits là, tout à l'heure, autant lorsqu'on va parler avec Emmanuel Latraverse que durant l'émission.
Le caucus. qui se passe autour de nous, ce qui influence nos vies. Les vrais enjeux expliqués simplement. Emmanuel Latraverse vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le Caucus avec Emmanuel Latraverse. Elle a fait un petit trou dans son horaire pour nous parce qu'elle est très occupée. Elle s'en va justement sur les ondes de LCN. Participer à cette émission spéciale du Conseil de ministres. Emmanuel, merci beaucoup de faire du temps pour nous aujourd'hui à Boulevard 102 à l'émission dans Jazz.
Ça fait plaisir d'être avec vous.
Excellent. Emmanuel, Pascal l'a dit d'entrée de jour, on en avait parlé hier, pas énormément de renouveau pour ce nouveau Conseil des ministres. Ne serait-ce que François Bonnardel, qui prend du galon là, pour terminer ce deuxième mandat de la CAQ en étant à l'immigration, mais sûrement leader parlementaire également.
Oui, puis je pense que c'est un choix. Pourquoi, M. Bonnardel, il faut régler ce problème-là? Faut faire une réforme à la réforme qui était une réforme de la réforme. Là. Ça fait depuis que la CAQ est au pouvoir qu'on est incapable d'enligner les flûtes adéquatement. Puis il y a un gros choc, je pense, entre Bernard Drinville et Mme Frichette pendant la course là-dessus. Maintenant, il faut faire atterrir tout ça. M. Bonnardel est vu comme un ministre... qui est capable de trouver des voies de passage, capable de négocier, qui ne va pas s'amorcer, puis qui va amener un changement de ton, je pense, dans le discours de la CAQ sur l'immigration pour essayer d'apaiser les tensions. J'ai fait des petits décomptes, là. Alors, on se parle, là, puisqu'il y a toujours des changements de dernière minute. Il y a 12 ministres au total qui restent en place. Donc, c'est la moitié du Conseil des ministres ne bouge pas. Il y en a 9 qui changent, qui sont dans un jeu de chaises musicales, parmi lesquelles vous les avez nommés, là, Drinville, Poulin, Charrette, Derry, etc. Il y a le retour des deux enfants prodiges, là, Bonnardel et Carman. Puis, il y a 5 nouveaux ministres. Donc, ce n'est pas un remaniement de rupture, ça, je suis d'accord, mais ce n'est pas un conseil des ministres de statu quo non plus.
Oui, c'est ça. Il y a quand même un effort de fait de la part de Christine Fréchette pour... aller chercher des nouvelles idées, puis comme tu l'as bien dit avec François Bonnardel aussi, régler des dossiers qui ont traîné là, sous l'air Legault. Puis d'ailleurs, on l'avait avec l'entente avec les médecins spécialistes hier en fin de journée. Là.
Oui, elle a deux défis essentiels. Hein. Le premier, c'est celui de l'unité du parti. Avec le 42% qu'a obtenu Bernard Drinville, je pense que c'est la raison pour laquelle elle lui a donné le poste qu'il convoitait, qui est super ministre de l'Énergie et de l'Économie. Mais ça veut dire aussi que si tu veux maintenir la paix sociale dans le parti, tu ne touches pas à Simon-Jolin Barrette à la justice, tu ne touches pas à Sonia Bélanger à la santé. Donc, c'est des grosses cartes que tu ne peux pas bouger. Promotion importante pour Samuel Poulain qui s'en va aux affaires municipales. Puis, elle fait monter au Conseil des ministres Karianne Bourassa, qui est la députée de Charlevoix, qui était une des premières à avoir appuyé Madame Fréchette. Donc, côté unité, ça va. Bien que Shirley de Richemont, qui était aussi de ceux qui appuyaient M. Drinville, a fait une sortie assez costaude là, sur les médias sociaux où elle dit que ce Conseil des ministres amène des enjeux de représentation et qu'elle va rester fidèle à ses valeurs et va réfléchir au sens de la vie. Alors, est-ce qu'elle veut quitter le caucus? Est-ce qu'elle veut bouder? Est-ce qu'elle sera là aujourd'hui? Mettons qu'il y a un point d'interrogation là, sur son sort, c'est certainement la note discordante de la journée. En même temps, l'enjeu, c'est dans des gros ministères, là, ça prend 2-3 mois à saisir les nuances, les commandes, tu sais, pour vraiment les approprier. 2-3 mois, on va être en campagne électorale. Alors, elle était un peu coincée, je pense, à ce chapitre-là, Mme Fréchette. L'exercice qu'elle présente aujourd'hui s'apparente un peu à ce qu'avait fait M. Carney. Là. Tu te fais rentrer assez de 109, tu bouges assez de cartes pour pouvoir donner l'impression d'un vent nouveau, mais en même temps, tu ne fragilises pas le Conseil des ministres quant à ses socles parce que tu n'as pas le luxe du temps ce moment. Moi, je pense que le vrai test aujourd'hui... Puis c'est toujours le problème. T'sais. À chaque fois qu'elle fait un discours et qu'elle ne marque pas un geste de rupture, ben ça fait monter les enchères sur le prochain. Là. Alors, ce n'est pas le grand remaniement de la rupture auquel on aurait pu penser, mais moi, ce qu'on me dit, c'est de surveiller parce que dans son discours après remaniement, elle va donner des mandats là, à chacun de ses ministres. Et c'est vraiment par ces mandats-là là, qu'on va vouloir envoyer le signal de changement et d'action rapide à poser là, pour justement, si tu me permets l'expression, virer le paquebot de bord
ben
là,
oui, là.
En termes de gouvernement.
Démontrer qu'on n'est pas dans la continuité. Il y a une exception à la règle, c'est Sonia Lebel. Elle, elle a officiellement dit qu'elle ne se représenterait pas. Elle garde l'éducation. Là, je vais te poser la question. Pourquoi Sonia Lebel et non pas Geneviève Guilbeault ou Jonathan Julien?
Ben parce qu'elle ne traîne pas les casseroles de Jonathan Julien et de Geneviève Guilbeault.
C'est une bonne réponse.
C'est, si tu veux la réponse courte, c'est
ben,
ça.
Je suis très d'accord avec toi. C'est des députés de la région de Québec, puis il n'y a rien qu'à avancer en 8 ans avec
oui,
la CAQ.
Oui, mais Jean-François Simard a une promotion. Lui, c'est juste, oui, il va garder la capitale nationale, ouais, ouais. Mais moi, on me dit qu'il va passer des ressources naturelles à l'emploi. Alors,
ouais,
à,
ça,
à
en
confirmer
effet.
Et à valider. Madame Lebel, c'est comme Sainte Sonia, tu sais. C'est qui? C'est Mario Dumont ce matin qui disait, tu sais, il y a une clause, Sonia Lebel, on dirait, dans l'ADN de la CAQ. Compétente, tout le monde aurait voulu qu'elle se présente, tout le monde a besoin d'elle, tout le monde aurait voulu qu'elle reste. Fait que finalement, on la laisse aux commandes. Je pense aussi que parce qu'elle est calme et compétente, l'épée de Damoclès au-dessus du gouvernement, c'est la rentrée scolaire.
Oui, tu as raison. On va être en pleine campagne
classes,
électorale.
Le manque de profs, tu sais, on vit ce mélodrame-là là, à partir de la mi-août à chaque année. D'avoir une ministre qui n'a pas à se préoccuper de se faire élire.
Mm-hmm, c'est un bon point.
Puis qui peut veiller au grain puis être aux commandes de l'opération rentrée scolaire qui a lieu exactement pendant la campagne électorale. J'ose espérer que ça faisait partie du calcul. Ça explique certainement une des raisons pour lesquelles on l'a laissé là.
Oui, puis dans le milieu scolaire, on parle d'elle comme une ministre qui est disponible, comme une ministre justement qui est présente sur le terrain. Alors, c'est
ça. Elle fait pas du parage, mais elle opère.
C'est ça. C'est sûr qu'elle est rassurante. Puis en même temps, on dit Sainte Sonia, mais je pense qu'elle mérite quand même d'avoir cette confiance du public. Elle a réglé les négociations avec la fonction publique dans un mouvement de grève sociale sans précédent. Elle a travaillé comme commissaire à la commission Charbonneau.
Ouais, alors, non, ça, c'est il y en a beaucoup là. À la CAQ qui pleurent encore le fait qu'elle ne se soit pas présentée dans la course à la direction. Donc, je pense que C'est une clause particulière, Mme Lebel, disons.
Bon, parlons des vraies affaires. La souveraineté du Québec, Emmanuel.
Mais oui!
Là, on a eu un sondage. Le PQ a repris les devants à 31%. Ben, d'après moi, Charles Milliard, qui s'est entremêlé dans le français puis l'anglais, ça n'a pas aidé le Parti libéral.
Mais en vérité, il faut toujours comparer des pommes puis des pommes. Là. Dans le léger, dans les sondages légers, le Parti libéral n'a jamais été premier.
En effet, tu as entièrement raison. Mais il a quand même perdu 5 points par rapport au dernier sondage, le Parti libéral.
Mais si tu peux rendre ça simple,
ah, voyons donc.
Les appuis sont revenus à où ils étaient pour tous et chacun au mois de novembre, avant le mélodrame Pablo Rodriguez.
Bon, donc on est revenu à la case départ.
Donc, on est un peu au retour à la case départ. Et donc, il y a un effet Fréchette parce que l'élection de Mme Fréchette permet de remonter à ce stade-là de 17%, donc d'effacer les pertes causées par le crêpage de chignon, les affrontements, la chicane, la fracture pendant la course à la direction, donc plus 4 pour elle. Une baisse du Parti libéral, donc il y a vraiment, on voit les vases communicants là, entre le Parti libéral et la CAQ en ce moment. À 31%, le PQ est encore en position de former le gouvernement parce qu'il y a quand même 20 points d'avance là, dans l'électorat francophone à 38%. Ce qui est très intéressant, c'est chez vous.
Capitale nationale.
C'est la région de Québec.
Ben oui.
Où là, il y a une vraie course à trois. Avec le PQ qui, lui, en a beaucoup perdu, ben beaucoup pas mal, là, perdu dans la région de Québec. Il était à 36% en novembre. Il est rebaissé à 29%.
Grosse perte de 7 points.
Le Parti libéral. Puis c'est drôle parce que je viens de dire que dans l'électorat général, ça ressemble à des bases communicants entre la CAQ et le PLQ. Mais dans la région de Québec, c'est des bases communicants entre le PLQ et le PQ.
Ce qui est particulier parce que c'est un parti complètement souverainiste et un parti complètement fédéraliste.
Oui, alors la CAQ perd 10 points, le Parti libéral en gagne 8, fait que c'est 29, 25, puis 22 pour le Parti conservateur d'Éric Duhaime. Donc ça, là, c'est une vraie, vraie, vraie course à trois qui se dessine dans la grande région de Québec. Dans les circonstances actuelles, le pavé dans la mare, tu l'évoquais de ce sondage-là, c'est que les coquins, Jean-Marc Léger, il a proposé, il a demandé aux gens, si le PQ s'engageait à ne pas faire de référendum, pour qui est-ce que vous voteriez? Là, le PQ monte à 39%.
Hey, c'est une explosion.
47% chez les francophones. Là, je veux dire, c'est une super majorité, là, tu sais, très clairement. Mais ça n'arrivera pas.
Non, hein, je pense pas que ça arrive parce que justement, on va écouter Paul Saint-Pierre Plamondon en conférence de presse tout à l'heure à l'Assemblée nationale.
Je sais, mais en même temps, qui va me croire au Québec si j'arrive devant vous? Puis quelle est la valeur de l'engagement politique si j'arrive devant vous? Puis je vous dis, hey, j'ai regardé un sondage ce matin, laissez-moi vous dire exactement l'inverse de ce que je pense. Je ne ferai pas ça, ne serait-ce que pour que par respect de ce que doit être l'engagement politique, si on pense quelque chose, puis on pense que la solution réside dans la mise sur pied d'un pays dans le cadre duquel on met fin au gaspillage d'Ottawa puis on prend nos propres décisions, bien, il ne faut pas avoir peur de son destin.
Sais-tu quoi? J'aime ça. J'aime ça, un chef de parti qui se tient debout puis qui dit, moi, je suis entré en politique parce que je crois à la souveraineté du Québec. Puis si vous me nommez premier ministre, je m'en vais faire la souveraineté du Québec. Parle-moi de ça, quelqu'un qui fait pas comme la CAQ puis qui regarde pas où le vent tourne pour prendre des décisions.
Mais c'est intéressant parce que moi, je trouve qu'on est en train... Tu sais, on a beaucoup reproché là, dans les 6 derniers mois à Paul Saint-Pierre Plamondon d'être arrogant, d'être cassant, d'être soupe au lait, tu sais, tout ça. On le voit retrouver le ton... de 2022-2023.
T'as raison.
Cette candeur de jouer carte sur table, de miser sur l'authenticité de son action, puis on le voit très, très, très clairement dans cet échange-là. Dans les faits, je pense que c'est une chose de dire, oh, il y a un sondage qui dit que si je mets le référendum sur la glace... je vais gagner encore plus. Est-ce que ça survivrait au test de la joute politique de voir le PQ renouer avec les scénarios de conditions gagnantes, tout ce que tu veux? Je pense que ça aurait, il a raison dans son analyse de dire, de faire valoir que ça aurait un impact majeur sur sa crédibilité, là.
Non, en effet. Puis en même temps, le PQ n'a pas été au pouvoir beaucoup dans les 15 dernières années, là, ne serait-ce qu'un petit aparté d'un an et demi avec Pauline Marois. Fait que c'est ce qui me fait dire qu'il est aussi bien de jouer le tout pour le tout.
Bien, c'est le pari de son engagement politique. Puis, tu sais, je comprends les apôtres de Martin Saint-Louis qui dit « tu joues la game qu'on te donne ». Mais tu joues aussi ta game dans game, tu sais. Puis lui, sa game, c'est un référendum dans le premier mandat. Et c'est le pari d'aller jusqu'au bout avec ça. Puis en ce moment, même à 31%, à cause de son avance dans le vote francophone, si le parti est bien organisé, il formerait quand même un gouvernement presque majoritaire, là, tu sais.
Oui, c'est d'ailleurs ce qu'il a dit dans la même conférence de presse, là.
Mais ce qu'il y a de très difficile dans les faits, c'est que quand tu décortiques ces sondages-là, c'est que tu te retrouves avec beaucoup... Il n'y aura pas une campagne électorale, tu comprends?
Ben oui.
Il va en avoir là, au moins 4. Il va y avoir la campagne électorale sur l'île de Montréal. Il va y avoir la campagne électorale dans le 4-5-0. Il va y avoir une campagne électorale dans la région de Québec. Puis il va y avoir une campagne dans le reste du Québec.
C'est ça. Puis là, ben le message, ça va être dur que le message soit cohérent aux 4 places, là. Ça va être un méchant jeu d'équilibriste pour les différents chefs, là.
Ben, je veux dire, c'est quand tu es clair dans ta vision, tu proposes la même aux 4 coins, mais ce qu'il y a de difficile en termes d'organisation, c'est que la dynamique électorale ne sera pas la même d'un endroit à l'autre. Mm-hmm. T'sais, donc, personne ne va se préoccuper d'Éric Duhaime à Montréal ou dans le 4-5-0,
non,
mais
en
il
effet.
Est vraiment un enjeu chez vous. T'sais. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir ça.
En effet, en effet. Vous êtes dans le caucus avec Emmanuel Latraverse, segment du lundi au jeudi de midi à 12h30. Emmanuel, je vais terminer le caucus en te parlant de ce nouveau comité que Mark Carney a mis sur pied, comité pour les relations entre le Canada et les États-Unis. Et là, il a invité plusieurs personnes de différents horizons. Pascal a parlé justement avec Valérie Beaudoin, chroniqueuse et chercheuse également pour la chaire Raoul Dandurand. Et Pascal, Valérie, t'as expliqué pourquoi ce conseil-là a été mis sur pied.
Oui, ça se tramait depuis quelques temps quand même. Puis elle a fait la description du conseil puis du mandat.
C'est son cabinet qui m'a approché pour former ce comité. Un comité qui est non partisan. On a autant d'anciens politiciens de tous les horizons, des gens du milieu syndical, des gens du milieu économique, des experts comme moi aussi. Alors, ça fait vraiment un mélange des genres et des opinions qui va être super, je pense, pertinent. Des rencontres qui ont pour but de développer la stratégie canadienne, mais ça reste que le dernier mot, ben, c'est bien sûr le gouvernement qui là, parce que comme nous, on est non-partisans. Il y a des choses qui vont être un petit peu opposées dans les discussions, mais c'est ce qui va en faire la beauté. Et après, ce sera au gouvernement Carney de décider ce qu'ils vont prendre là, des discussions au sein de ce conseil-là.
Belle initiative, à mon avis, Emmanuel, parce qu'on va chercher justement des gens de différents horizons. Je pense entre autres à Erin O'Toole, qui est l'ancien chef du Parti conservateur du Canada, Jean Charest, ancien premier ministre du Québec. Mais je me questionne sur une personne, puis là, je veux pas faire de l'antisyndicaliste, OK? Mais Magali Picard. Parce que pour moi, Magali Picard, elle représente une personne qui a pas nécessairement bien joué ses atouts dans la dernière année, notamment avec son manque de politesse en commission parlementaire face à Jean Boulay. Fait que peut-être j'aurais vu quelqu'un d'autre des syndicats plus que Magali Picard.
Ben, ils sont deux, hein. Il y a Lana Payne, du plus grand syndicat du Canada anglais. Tu sais, comme on a pris le plus gros syndicat, je pense, des deux mondes. Tu sais, c'est pas nouveau, là, comme idée. On va s'entendre, là. C'est pas, moi, j'appelle ça, c'est un remaniement, là, que fait monsieur Carney. Parce que dans les faits, monsieur Trudeau, au lendemain de l'élection de monsieur Trump, avant son assermentation, avait mis sur pied un comité semblable, là, dans le même esprit, si tu veux. Jean Charest aussi était dessus, puis plusieurs dirigeants syndicaux, puis des PDG de grandes entreprises. Là, M. Carney refait un comité plus à sa main, je pense, plus ciblé sur la réalité de la négo qui s'en vient et qui va être présidé par son ministre responsable de la négociation avec les États-Unis. C'est un peu essentiel, si tu veux, trouver une façon de forger des consensus acceptables avec les compromis douloureux qui viennent avec, il faut que tu aies autour de la table des voix de tous les horizons.
Mm-hmm.
Et je pense que c'est à cet égard que ce comité-là est efficace. Ça devient comme, excuse-moi l'anglicisme, mais un sounding board, tu sais. Tu négocies ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des choses où tu sais, parce qu'il faut éviter que dans ce genre de négociation-là, le gouvernement, ses équipes de négociateurs se ramassent comme dans un tunnel, tu sais. Et ça permet d'amener de l'air puis des perspectives à leur réflexion pour trouver des solutions dans ce qui s'annonce une négociation vraiment extrêmement difficile, tu sais. Puis ça, on le voit, tu sais, monsieur Poilievre était en scrum ce matin, puis me valoir, le gouvernement négocie pas, il s'en va nulle part, etc., blablabla. Tu sais, c'est sûr que le gouvernement américain est beaucoup plus dur à l'égard du gouvernement canadien qu'il ne l'est à l'égard du gouvernement du Mexique, mais c'est peut-être un signe que notre gouvernement négocie dur aussi, tu sais.
En effet.
Si tu fais plaisir aux Américains, ils ne te critiquent pas. Quand tu tiens ta ligne dure, c'est là que tu te fais invectiver. Moi, c'est non-partisan, là, mais comme citoyenne, c'est rendu que je trouve ça bien quand les États-Unis nous insultent. Ça me convainc que mon gouvernement négocie de manière solide. Tu sais.
En effet, et en 30 secondes, Emmanuel, pour terminer, la joute politique aussi, Mark Carney la met un peu dans sa petite poche arrière avec Erin O'Toole et Jean Charest, on s'entend. Jean Charest a eu énormément de votes conservateurs au Québec dans la dernière course à la chefferie. Il vient porter un coup dur à Pierre Poilievre aussi.
Ben, tu sais, il y a pas beaucoup de bonheur là, entre Jean Charest et Pierre Poilievre, là. Donc, Monsieur Charest, je te dirais, était déjà sur le comité initial de Monsieur Trudeau. Donc, il y a une forme de continuité là-dedans. Faut pas oublier que c'est lui le père de l'accord de, tu sais, de l'idée d'un accord de libre-échange avec l'Europe. Il y a énormément de contacts aux États-Unis. Donc, je pense que c'est une voie importante. Puis, M. O'Toole va remplacer, je pense, si ma mémoire est bonne, c'est Lisa Raitt, l'ancienne ministre conservatrice qui était là à un moment donné. Il y a une question d'affinité. Mais l'idée, vraiment, c'est d'avoir une ancienne voix très forte du monde conservateur autour de la table. Parce que ça aussi, ça fait partie du calcul du gouvernement. Si on veut réussir à résoudre le problème, il faut sortir de la soupe idéologique libérale, tu sais. Et donc, à ce chapitre, M. Carney, c'est pour ça que je te dis que c'est pas, il n'a pas réinventé le pain tranché là, aujourd'hui, là. Mais il remanie une idée existante pour la mettre à sa main à la lumière de ses affinités et de ses objectifs dans la négociation.
Emmanuel Latraverse, c'est un bonheur de parler avec toi. On te souhaite une excellente émission spéciale sur les ondes d'LCN.
À demain.
Salut. Conseil des ministres, l'annonce se fait à 14h. On sait déjà pas mal tout. Pascal, tu pourras nous le rappeler au prochain bloc de nouvelles. Mais ce qui a vraiment retenu l'attention aujourd'hui dans l'actualité, c'est ce fameux 39 % au PQ s'ils promettent pas de référendum. Oh, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Paul Saint-Pierre Plamondon dit, allez, pas question, je m'en vais vers un référendum.
Ah, il l'a même réitéré sur sa page Facebook il y a quelques minutes, là.
Exactement. Donc, c'est très intéressant. 31% avec le vote francophone, le PQ serait également majoritaire. Comment tout ça va se jouer d'ici à la campagne électorale? Ça va être très, très, très intéressant. Bloc d'actualité locale au retour, alors que Mathias Turcotte va venir s'installer en studio avec nous. Il va nous parler des travaux du tramway qui débute dans le secteur ouest de la ville, c'est-à-dire le secteur Saint-Denis. Fois demain. Ça va réduire le boulevard Laurier à une voie dans chaque direction. Donc, automobilistes, soyez très attentifs à ceci. Et Mathias a également assisté à une conférence de presse concernant les terrasses sur la Grande Allée en lien avec les travaux du tramway pour cet été. Il y avait des demandes de fait par les commerçants. Est-ce qu'on a répondu positivement à leurs demandes? Mathias Turcotte nous ramène l'information et on aura Alexandre Grenier, copropriétaire du groupe Maestro, qui contient notamment l'atelier, qui va être avec nous en studio également pour nous en parler. Tout ça, ça suit dans l'émission On en jase à Boulevard 102.1.